Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi Canal Académie. Notre série sur la littérature comparée nous amène maintenant à parler des liens, des correspondances entre littérature et beaux-arts. Et notre émission précédente sur la littérature comparée et la Chine nous avait conduit sur les pas de Victor Segalen et de François Cheng. Or, Segalen a écrit un recueil intitulé « Peinture » et a accompli une mission archéologique en Chine. Et François Cheng a consacré plusieurs livres aux arts de Chine et à la beauté, parmi lesquels les 5 méditations sur la beauté. Aujourd'hui, Pierre Brunel et son invité, Madame Marie-Hélène Girard, évoquent, après un rapide retour à l'Antiquité avec Ovid, le concept d'art européen et la dimension européenne du sujet et des exemples pris essentiellement dans la littérature du 19e et du début du 20e. Il s'agira de Théophile Gautier, Baudelaire et Proust. Marie-Hélène Girard est professeure émérite de littérature comparée à l'Université de Picardie et professeure à l'Université de Yale depuis 2002. Ses nombreux travaux sur les auteurs et l'art, sur les correspondances entre les diverses expressions artistiques, sur les critiques d'art, se sont attachés tout particulièrement à Théophile Gautier, mais aussi à Vasari, Vivant de Nom, Madame de Staël, à Aloysius Bertrand, Balzac et les Goncourt, sans oublier des études sur les relations entre l'art et la littérature et sur la réception de la Renaissance italienne dans le romantisme français et sur le voyage en Italie et sur la notion de patrimoine au XIXe siècle. Pierre Brunel, qui est l'âme de nos émissions comparatistes, et dont le nombre d'ouvrages ne se compte plus, a évidemment beaucoup travaillé sur littérature et beaux-arts, à savoir, parmi d'autres, une anthologie de l'art grec, les Métamorphoses d'Orphée, et des travaux sur Stendhal, Huysmans, et un livre écrit en 2011 intitulé « Écrire sur l'art, un art d'écrire », et c'est précisément, monsieur, le thème de notre émission.
Exactement.
Madame, monsieur, bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, madame.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Pierre Brunel, vous avez choisi pour nos pauses musicales Granados et Reynaldo Hahn.
Alors Granados à cause de Goya. Granados a composé un ensemble de pièces pour piano, les Goyescas, inspirées par différentes œuvres de Goya. Il en a tiré par la suite un opéra. Et il y a, si je puis dire, une Goyesca supplémentaire, El Pelele, le Pantin, inspiré non pas par un tableau de Goya, mais par un simple carton dont il existe 2 exemplaires à Madrid et qui représente donc un pantin. J'ai choisi cette pièce parce que et Gautier et Baudelaire, et on le dira tout à l'heure, Baudelaire à cause de Gautier, ont été frappés par le côté caricatural et caricaturiste de Goya. Et cette pièce, le Pantin, évoque exactement cela.
Et la seconde pause ?
La seconde pause musicale alors, sera très différente. Il s'agit d'un des 4 portraits de peintre de Proust. Proust a écrit 4 poèmes évoquant des peintres en 1895. Très peu de temps après, son grand ami Reynaldo Hahn a composé une musique pour piano destinée à accompagner une récitation de ses poèmes. Il y a 4 peintres donc, Cuyp, Potter, Antoine van Dyck et Watteau. Et j'ai choisi la pièce sur Watteau parce que nous évoquerons à plusieurs reprises ce peintre aujourd'hui.
Évidemment, Watteau, c'était aussi une évocation faite par Théophile Gautier.
Alors Théophile Gautier a publié en 1835 un poème intitulé « Watteau » dans la Comédie de la mort, poème qui sera repris ensuite dans les Poésies diverses, et qui est une sorte d'anticipation du recueillement baudelairien, puisque le poète traverse une plaine où rien n'est vert, je cite le poème, « hormis un parc planté d'arbres très vieux, c'était un parc dans le goût de Watteau ». Et il termine sur une note mélancolique, « Je m'en allais, l'âme triste et ravie, En regardant, j'avais compris cela, que j'étais près du rêve de ma vie, que mon bonheur était enfermé là.
Merci madame, vous avez bien ponctué le désir de la pause musicale de Pierre Brunel. Avant qu'on ne parle plus de Théophile Gautier, Pierre Brunel, parmi les grands anciens dans l'Antiquité, vous avez choisi Ovide et ses métamorphoses pour illustrer cette source inépuisable des peintres.
Parce que Ovide, avec les métamorphoses, a fourni aux peintres une multitude de sujets, certains de ces sujets ayant souvent été repris par des peintres différents. On n'en finirait pas d'énumérer ici les œuvres. Et je pense que le catalogue ovidien en matière de peinture est considérable. Il se trouve que nous avions consacré une émission à Ovide, donc c'était une manière aussi d'établir une transition entre les émissions précédentes et celle-ci. Je voudrais peut-être, puisque vous m'en donnez l'occasion, renforcer le lien avec la toute dernière émission sur la Chine. Vous avez très bien évoqué les peintures de Ségalène, rappelé que François Cheng a consacré plusieurs ouvrages à l'art chinois. Et j'ai été frappé par une chose, c'est que Zhao Wuqi est arrivé à Paris à peu près au même moment que François Cheng, 1949, et que son évolution a été exactement la même. Il a redécouvert la Chine et l'art chinois à partir de la France et à partir de l'Occident. Et comme François Cheng, il a été très marqué dans son art même par la calligraphie chinoise.
Par ailleurs, vous avez dirigé Pierre Brunel avec Yves Chevrel un précis de littérature comparée dans lequel est évoqué le concept d'art européen, la dimension européenne et la place prise aujourd'hui par ses études dans le comparatisme. Quel est justement ce concept ?
Je vous remercie de faire allusion à cela parce que le chapitre dans cet ouvrage collectif était dû à un collègue que Marie-Hélène Girard et moi avons bien connu, qui malheureusement a disparu trop tôt, Jean-Michel Glickson. Et c'était justement par cette relation entre littérature et beaux-arts que Jean-Michel Glickson abordait un aspect du comparatisme qui s'est beaucoup développé depuis. Les travaux de Marie-Hélène Girard en sont la preuve. Et ce chapitre, dans ce qui était un manuel de littérature comparée, je crois, eut des suites heureuses pour notre discipline. Alors, art européen, et même au-delà de l'Europe, tout à l'heure il était question de Chine, l'art japonais tout aussi bien a marqué les écrivains, les arts africains, etc. Ça a été, je pense, une ouverture considérable du comparatisme à un certain moment, à la fin du XXe siècle.
Et oui, vous, madame, vous avez fait des thèses à ce sujet-là. Quelle est la dimension européenne de l'art dans la littérature ?
Alors, la dimension européenne de l'art s'impose dans la littérature dès le début du XIXe siècle. Et je dirais même un peu avant, lorsque Lessing, avec son Laocoon, commence à lancer le débat sur les mérites comparés du texte et de l'image. Et il ouvre par là la voie à une formidable fascination de la littérature pour les images. Et il faut imaginer le monde culturel du XIXe siècle comme un monde extrêmement ouvert sur l'Europe. De ce point de vue-là, les peintres allemands exposés au salon à Paris, les peintres anglais de même, et les critiques voyageaient en Europe. Gautier en est un bon exemple. Il avait été embauché par Émile de Girardin en 1836 à la presse, à la fois comme critique dramatique et comme critique d'art. Et Gautier va voyager dans toute l'Europe et même un peu au-delà.
Constantinople,
l'Afrique du Nord, pour rendre compte essentiellement d'événements culturels et pour visiter des musées, pour visiter des expositions. J'ajoute qu'il y a eu en France à deux reprises en 1855 et en 1867 des expositions universelles qui ont été accompagnées d'expositions des beaux-arts. Celle de 1855 notamment a fait sensation à Paris. On y a découvert les pré-raphaélites, on y a découvert les peintres italiens, les peintres espagnols, un certain nombre de peintres allemands. Et Gautier a rendu compte de l'événement dans un ensemble de 52 feuilletons, écrit non plus pour la presse, mais pour le Moniteur universel où il était passé à l'occasion de l'exposition universelle. Et ces 52 feuilletons ont été repris sous le titre précisément « Des beaux-arts en Europe » par l'éditeur Michel Lévy en 1856. Et en 1867, les Parisiens ont été d'eux-mêmes exposés à la peinture européenne et même un peu au-delà. Et les critiques en ont parlé, les écrivains en ont fait aussi leur profit et ont acquis une sorte d'ouverture sur le monde artistique européen. Je pense que même si la France est en position dominante dans le monde culturel de l'Europe du XIXe siècle, même si Paris est la capitale de référence, l'art se pense en termes européens déjà à ce moment-là.
Et comme vous dites, les travaux de Gautier sur l'art ont vraiment une dimension européenne. Et Gautier est habile à parler peinture, poésie, musique, danse et théâtre. Rares sont les critiques d'art qui peuvent en faire autant à l'époque.
Alors Gautier a été un homme universel. Je me le représente volontiers comme une sorte de caisse de résonance de son temps. Et sa carrière s'inscrit entre, on va dire, 1830, son premier recueil de poésie, ou 1833, son premier salon de peinture, et 1872, c'est-à-dire une des périodes les plus fécondes.
Et il est mort en 1872.
Il est mort en 72, mais il n'a pas survécu à l'épreuve de la Commune. Il a repris un petit peu d'activité au tout début de la République, mais son temps était passé. Mais il a de la sorte passé au filtre de sa critique tous les débats, tous les événements culturels intéressants de son époque. C'est une part de son œuvre qu'on connaît mal pour une raison purement éditoriale. Il a été victime du caractère éphémère de la presse et nous sommes en train actuellement de rééditer les feuilletons d'art dramatique, les feuilletons de critique d'art et l'ensemble des feuilletons sur toutes les questions culturelles, y compris la danse, y compris les arts décoratifs, y compris ce qui se passe à l'étranger aussi, pour lui rendre sa véritable dimension de critique. Et c'est un critique extraordinairement fécond, astucieux, perceptif, qui capte remarquablement bien les tendances qui se marient, s'opposent, se discutent dans le monde de son temps.
Et qui savait être ouvert aux idées nouvelles ?
Alors, qui savait être ouvert aux idées nouvelles ? Non qu'il ait été un critique girouette, Gautier avait ses convictions. Gautier a été un grand admirateur d'Ingres, un grand admirateur de, je dirais, la peinture issue de la tradition italienne. Il a été hostile au réalisme, il a manqué en partie l'œuvre de Manet, encore que le premier salon de Manet en 1861, où Manet expose le Guitarero, n'échappe pas à Gautier. Et Gautier lance Manet à ce moment-là, mais il ne sera pas d'accord avec Le Déjeuner sur l'herbe, il ne sera pas d'accord avec Olympia. Cela dit, il en a perçu l'importance. Et je trouve que c'est ça sa caractéristique la plus intéressante, d'avoir affiché ses convictions en ayant une conscience très claire de ce qui se jouait par ailleurs.
Et quand vous parliez du Guitarero, c'était parce que c'était l'époque de la découverte de l'Espagne ?
Alors, c'était l'époque, sinon de la découverte de l'Espagne, c'est l'époque où Manet tire toutes les leçons de ce qu'on avait découvert à Paris en 1838 avec la galerie espagnole de Louis-Philippe. Et il tire aussi les leçons de sa méditation sur Velázquez et sur les grands peintres espagnols qui sont une des composantes qui aident le réalisme à prendre forme.
Pierre Brunel, donc Gautier, l'Espagne, Goya.
Alors, il y a le voyage en Espagne de Gautier. Et il y a ce texte auquel je me suis beaucoup intéressé, mais que j'avais beaucoup, beaucoup de mal à trouver parce qu'il a été par la suite intégré au voyage en Espagne, c'est-à-dire un texte antérieur de Gautier sur Goya. Ce texte m'intéressait tout particulièrement parce que c'est par l'intermédiaire de ce texte que Baudelaire en est venu à Goya. Mais Marie-Hélène Gérard connaît beaucoup mieux que moi ce texte rare et c'est elle qui va pouvoir l'évoquer devant nous.
Alors, Gautier a publié en 1838 un premier article sur Goya qui a révélé Goya non pas à l'élite des écrivains qui avaient déjà été en contact avec Goya essentiellement par l'intermédiaire des Caprices. Vivant Denon avait ramené à la Bibliothèque nationale un exemplaire des Caprices qui a été consulté. Le recueil est passé aussi probablement par Guy Mardet, dont les fils étaient des amis de Delacroix. Bref, il y a à Paris, au début des années 1830, un intérêt qui émerge pour les Caprices de Goya. Mais Gautier les a révélés au grand public cultivé de l'époque, en 1838, dans cet article qui a reparu ensuite dans le cabinet de l'amateur et de l'antiquaire de son ami Eugène Piot, qui a été le compagnon de son voyage en Espagne. Et il a intégré ensuite cet article à la fin du chapitre 8 du voyage en Espagne. Alors, ce qui est intéressant dans l'image que Gautier nous donne de Goya, c'est la façon dont il privilégie la gravure par rapport à la peinture. La plupart des écrivains du XIXe siècle ont méconnu la peinture de Goya, dont la technique probablement était un peu trop avancée pour qu'ils en apprécient tous les effets. Voici ce qu'écrit Gautier dans l'article de 38. « La manière de peindre de Goya était aussi excentrique que son talent. Il puisait la couleur dans des baquets, l'appliquait avec des éponges, des balais, des torchons et tout ce qui lui tombait sous la main. Tout ceci nous paraît dépasser un peu les bornes de la fougue et de l'entrain. » Il faut attendre la seconde moitié du siècle pour qu'on comprenne et qu'on voit un peu davantage la peinture de Goya. En revanche, alors, les gravures retiennent toute l'attention de Gautier. On s'aperçoit qu'en 1838, il connaissait déjà tous les recueils. Les Caprices, la Tauromachie et les Désastres de la guerre. Et de manière un peu surprenante peut-être pour nous, il voit là une sorte de représentation de l'Espagne. Ces gravures lui renvoient un reflet, semble-t-il, fidèle de ce qu'est l'Espagne, ou du moins une Espagne en train de disparaître. Dans la tombe de Goya est enterré l'ancien art espagnol, le monde a jamais disparu, des toreros, des maillots, des manolas, des moines, des contrebandiers, des voleurs, des alguazils et des sorcières, toute la couleur locale de la péninsule. Et c'est la fin, ça, de l'article de 1838. Il est très sensible aussi à l'aspect fantastique et caricatural de l'art de Goya. C'est de la caricature, écrit-il, dans le genre d'Hoffmann, où la fantaisie se mêle toujours à la critique et qui va souvent jusqu'au lugubre et au terrible. Et il insiste notamment sur cette terrible planche des Caprices où l'on voit un mort qui essaie de sortir de la tombe. Et Baudelaire rebondira d'ailleurs sur la même image avec en tête l'article de Gautier auquel il renvoie explicitement et dont il reprend un certain nombre d'idées. Goya, de ce point de vue, a été crucial, je pense, pour toute une part du romantisme noir et au-delà pour tout un imaginaire romantique et au-delà du romantisme, tout un imaginaire de l'horrible, du grotesque et du caricatural. L'article de Gautier est important de ce point de vue-là parce qu'il ouvre la voie à toutes les curiosités qui vont s'exprimer dans ce sens et qui vont s'exprimer entre autres chez Baudelaire.
Écoutons Granados avec cette évocation du Pantin. Baudelaire, qui s'est présenté comme un disciple de Gautier dans la dédicace des Fleurs du Mal, a été lui aussi sensible à Watteau, on l'a dit tout à l'heure, et puis il était poète des phares. Mais Baudelaire, c'est au château de Versailles qu'il découvre Delacroix, Pierre Brunel.
Oui, parce qu'il a eu l'occasion, étant lycéen...
Enfin, il avait 17 ans.
C'était en 1838, il était à ce qui est aujourd'hui notre lycée Louis-le-Grand, et les élèves du lycée, sous la conduite du proviseur, ont été invités au château de Versailles pour découvrir le musée que le roi Louis-Philippe avait voulu y installer.
Le musée des batailles.
Voilà. Et le roi était présent le jour où Baudelaire, élève, était là. Il écrit une lettre à son beau-père, au Pic, à ce sujet, en disant assez peu de choses. Il n'est pas encore véritablement initié à l'art à ce moment-là. Il a été un peu déçu par ce qu'il a vu, mais il a remarqué Delacroix. Et il se demande si c'est à cause de la beauté de l'œuvre ou si c'est parce qu'on a fait déjà beaucoup de bruit autour de Delacroix. Il n'est pas question de Goya à ce moment-là. Et Goya, c'est via Gautier qu'il l'a connu. Vous disiez que l'article de Gautier était de 1838. Curieusement, 1838, c'est la date de ce voyage à Versailles. Et on trouve l'évocation de Goya chez Baudelaire dans un article sur les caricaturistes étrangers. Donc, c'est bel et bien cet aspect de la caricature que Gautier avait mis en valeur. Et puis, on le trouve aussi dans Les Phares. Vous avez évoqué le poème tout à l'heure, ce poème qui déroule une série de peintres, de Rubens à Delacroix.
Dont un sculpteur, Puget.
Et même un et demi, si je puis dire, un sculpteur Puget, mais aussi Michel-Ange qui est évoqué et en tant que peintre et en tant que sculpteur. Il y a une strophe consacrée à Watteau, une strophe consacrée à Goya. Ils se suivent, et si vous le permettez, je vais les lire à la suite l'une de l'autre. Watteau, ce carnaval où bien des cœurs illustres comme des papillons errent en flamboyant, décors frais et légers, éclairés par des lustres qui versent la folie à ce bal tournoyant. Goya, cauchemar plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles au miroir et d'enfants toutes nues, pour tenter les démons, ajustant bien leurs bas. Alors on a parfois reproché à Baudelaire cette connaissance limitée de l'œuvre de Goya, et elle s'explique, je crois, par là. C'est une connaissance moins directe, finalement, qu'indirecte. Et puis, j'aimerais dire une dernière chose au sujet de Baudelaire et Goya, c'est que nous savons que quand il était dans cette clinique de la rue du Dôme, transporté à la suite de son accident de santé à Namur, sur sa table de chevet se trouvait un livre sur Goya qu'il a accompagné jusqu'à ses derniers jours. Et ce livre, Marie-Hélène Girard l'a identifié.
Alors je pense que c'est l'étude qu'Hiriart venait de publier en 1867 sur Goya. Et c'est le moment où prend forme vraiment l'historiographie française sur Goya après cette phase de découverte où on voit l'œuvre de Goya littéralement diffusée chez Victor Hugo, chez Musset, chez George Sand, chez Gautier. On assiste véritablement à une sorte d'effetage d'huile. Tant les caprices s'inscrivent aisément sur l'horizon d'attente romantique à cette période-là.
Malraux, qui a consacré en 1950 un livre important sur Goya, Saturne, fait allusion, soit dans ce livre, soit dans des textes qui sont restés inachevés, à la connaissance étrange, incomplète, mais finalement intéressante que Baudelaire pouvait avoir de Goya.
Mais Baudelaire, c'était un critique d'art qui a eu une place considérable dans l'histoire de l'art. Il est un peu méconnu pour le grand public de cette facette-là de Baudelaire. Mais en fait, la série des salons, le peintre de la vie moderne, sont des monuments pour l'histoire de l'art.
Alors, c'est une part de l'œuvre de Baudelaire qui est moins méconnue que la part correspondante dans l'œuvre de Gautier. Les salons de Baudelaire ne sont jamais complètement tombés dans l'oubli, mais je dirais que ce sont des textes qui nous en apprennent beaucoup plus sur Baudelaire que sur l'art dont il parle. Et je crois que c'est ce qui fait leur force, ce qui a permis leur survie. Ce sont des textes aussi qui expriment les tendances, je dirais, de la modernité, pour utiliser un terme un peu passe-partout, beaucoup plus que ceux de Gautier. Ils sont moins marqués par l'allégeance à la tradition. L'article sur Ingres, au moment de l'exposition universelle, qu'écrit Baudelaire est un article très critique, quand celui de Gautier était très élogieux. Les deux hommes se séparent sur ce plan, même si Baudelaire a eu une grande admiration pour les salons de Gautier. Dans les articles qu'il a consacrés à Gautier, il rend hommage à son œuvre de salonnier. La sienne a été un peu différente, je dirais plus personnelle, avec un engagement qui tenait moins compte de la responsabilité du critique vis-à-vis du lecteur. Les salons de Baudelaire sont des textes très riches sur le plan poétique, ne sont pas forcément des textes qui vous apprennent beaucoup sur les artistes qu'ils commentent.
Oui, ils n'apprenaient pas à regarder les œuvres, ou en tout cas, ils ne donnaient pas beaucoup d'informations.
Alors, ils les regardaient d'un point de vue très personnel. Ils les regardaient comme une matière pour sa poésie. Et c'est de là que sont sortis les phares, d'ailleurs. C'est ce rapport extrêmement, j'allais dire prédateur, de Baudelaire vis-à-vis des œuvres. Ce qui prime, c'est le frisson que lui donne l'œuvre. Et il se préoccupe beaucoup moins que Gautier de la place de l'artiste, de la carrière de l'artiste. Gautier, de ce point de vue-là, pratique une forme de critique qui est plus proche de celle qu'on connaît aujourd'hui. Comment est-ce qu'on lance un artiste? Comment est-ce qu'on encourage sa carrière? Comment est-ce qu'on guide aussi un artiste? Il y a cette dimension-là aussi dans les salons de Gautier que vous ne trouvez pas dans les salons de Baudelaire, qui sont par ailleurs tout à fait admirables sur le plan, je dirais, purement de la poétique.
Alors avec le salon de 1859 en particulier, consacré à l'éloge de l'imagination créatrice, la reine des facultés, et ça va tout à fait dans le sens d'un développement sur l'art, sur la peinture, qui est inséparable de sa conception de la création poétique.
Je dirais même que c'est dans les salons de Baudelaire qu'on comprend véritablement l'idée qu'il se faisait de la création. C'est là qu'il l'exprime. Les salons peuvent être lus comme un détour pour comprendre la poétique de Baudelaire.
Et puis, je pense à Proust quand vous dites ça, parce que quand Proust parle, j'ai fait tout de suite un passage, mais quand Proust parle de la peinture, d'Elzir, des métaphores, de l'art, la vie dans l'art, la vie est l'art, la vraie vie, la seule vraie vie, c'est l'art, on pense que c'est de lui dont il parle aussi, tout en respectant énormément tous les autres artistes. Alors, comment Proust nous a-t-il montré son amour pour l'art, la peinture, la musique et l'écriture ? En faisant comprendre que c'est de lui dont il parlait. C'est une question difficile.
Oui, c'est une question difficile parce que dans À la recherche du temps perdu, il y a deux figures majeures qui sont une figure d'écrivain, une figure de peintre.
Bergotte et Elstir.
Avec quelque chose qui va finir par rapprocher l'écrivain de la peinture. Nous y viendrons peut-être tout à l'heure. C'est la page célèbre de La prisonnière sur la mort de Bergotte.
Le petit pan de mur jaune.
Le petit pan de mur jaune. Et c'est difficile de faire la part entre les deux évocations. Qu'est-ce que Proust a mis de lui en Bergotte? Qu'est-ce que Proust a mis de lui en Elstir? Il avait aussi, pour Elstir, des modèles véritablement pris dans la peinture. On a beaucoup parlé à ce propos, en particulier de Turner. Et d'autres modèles aussi, je crois.
Oui, il y a Manet derrière.
Manet.
Il y a quelque chose de Whistler aussi. Enfin, Elstir est un peu une synthèse
des
peintres que Proust aimait, qu'il a rencontrés.
Les impressionnistes.
Et les impressionnistes. On retrouve une sorte de puzzle d'éléments empruntés aux uns et aux autres dans le personnage d'Elstir, c'est ça.
Peintre de marine aussi.
Peintre de marine, enfin, le musée imaginaire de Proust est extraordinairement riche.
Il y a d'ailleurs un livre qui a été publié, qui porte ce titre, de Carpelès. Hein.
Oui.
Voilà, le musée imaginaire de Proust. Oui.
La musique aussi, parce que la petite phrase de Vinteuil est aussi évoquée comme un art qui transfigure la vie.
Oui, absolument, avec le mystère de l'identification de cette œuvre et de Vinteuil lui-même.
De baisers autour des bouches lasses.
Bergotte, parlons évidemment du petit pan de mur jaune qui montre que l'art, le détail dans la création, l'artistique, est plus important que tout raisonnement, que toute cérébralité. C'est ce que Bergotte a l'impression de sentir avant de mourir.
Alors c'est probablement, effectivement, la révélation que reçoit Bergotte juste avant sa mort. Mais je pense que la mort de Bergotte nous dit aussi ce que Gautier appelait la religion de l'art, c'est-à-dire le dévouement jusqu'au bout de quelqu'un à la cause de l'art. Et il se trouve que c'est Vermeer qui est le support de cette religion, de cette dévotion que Proust lui-même avait quand il a découvert Vermeer en 1902 à La Haye, lui aussi. Vermeer qui était alors un cas tout à fait intéressant parce que c'est un peintre qu'on venait quasiment
de
redécouvrir. Et le personnage qui a fait exister Vermeer est Tore Bürger. Tore Bürger était un critique d'art qui a commencé sa carrière sous la Monarchie de Juillet, qui était un républicain convaincu, qui à ce titre s'intéressait davantage aux écoles du Nord qu'à la tradition italienne, aux protestants plutôt qu'aux catholiques. Et ses convictions républicaines lui ont valu d'être exilé de 1849 à 1859. Il a mis à profit ce temps de l'exil pour reconstituer littéralement l'image de Van der Meer, puisque c'est le nom sous lequel on le connaît au XIXe siècle. Et il publie en 1866 trois articles dans la Gazette des Beaux-Arts sur Vermeer, et qu'il rassemble ensuite en monographie et qui ressuscite littéralement l'œuvre de Vermeer. Donc Proust refait en quelque sorte ce cheminement avec lui en main les maîtres d'autrefois de Fromentin, qui est un autre grand texte du XIXe siècle, à cheval sur la littérature et l'art, puisque ce sont les peintres du Nord dont parle le peintre Fromentin dans ce texte. Et Proust voyait dans Vermeer le peintre par excellence, et dans la vue de Delft en particulier, l'un des 8 tableaux absolus et probablement le plus beau tableau qui existe. Donc, au terme de sa vie, il met Bergotte en présence de cette œuvre emblématique et je crois qu'il lui permet d'entrer au cœur de l'œuvre avec le petit pan de mur jaune, le détail qui avait échappé et qui devient à lui seul représentatif du tableau. Et je trouve que cette scène est très belle parce qu'elle dit vraiment ce qu'est l'attachement à une œuvre et à travers cette œuvre, ce qu'est l'attachement à l'art et ce que ça coûte en termes de vie et accessoirement en termes de temps aussi pour Proust.
Je voudrais dire quelque chose ici qui va nous conduire à l'Académie. Vous avez pu observer que ni Théophile Gautier, ni Baudelaire, ni Proust ne sont entrés à l'Académie française. En revanche, quelqu'un qui a accompagné dans le domaine de l'art Proust et surtout à la fin de sa vie, Jean-Louis Vaudoyer, a été membre de l'Académie française, élu en 1950, et il existe un lien entre Jean-Louis Vaudoyer et Proust à propos de Vermeer. Il y avait une exposition à Paris en 1921. En 1921, tout à fait à la fin de la vie de Proust, quand il habitait rue Hamelin. Jean-Louis Vaudoyer a écrit une série de 3 articles dans un journal qui s'appelait L'Opinion, où il parle longuement de la vue de Delft. Et on a pu faire la comparaison entre le texte de Proust, La mort de Bergotte, quand il visite cette exposition, hein, il meurt en regardant le tableau de Vermeer et le petit pan de mur jaune, et le texte de Jean-Louis Vaudoyer a d'ailleurs accompagné Proust dans la visite que Proust a voulu faire de l'exposition où se trouvait le tableau de Vermeer.
Alors qu'il était déjà un petit peu mal portant.
Oh, Proust, il était plus que mal portant.
Et qu'il s'était un peu forcé, violenté,
oui, il était plus
mais
que
il
mal
ne
portant.
Pouvait pas ne pas y aller.
Voilà. Et alors ce qui est frappant, ce que la critique a très très bien montré, c'est que dans cette page si célèbre de Proust, des expressions de l'article de Jean-Louis Vaudoyer sont reprises, et en particulier la notation concernant ce qu'il y a de chinois, hein, ce qu'il y a d'apparenté à la peinture chinoise dans la vue de Delft. C'est une notation de Vaudoyer reprise par Proust littéralement dans ce texte de La Prisonnière.
Pierre Brunel, en conclusion pour cette émission sur l'art et la littérature comparée de nos jours, qu'en est-il ?
Alors c'est très difficile de conclure parce qu'il faudrait poursuivre au-delà de la mort de Proust et de la publication complète de La recherche du temps perdu. Les exemples seraient innombrables, je pense en particulier à la relation entre le surréalisme et la peinture et au livre d'André Breton à ce sujet, et ceci véritablement jusqu'à nos jours. Il se trouve que Marie-Hélène Girard et moi, séparément et malgré l'océan Atlantique qui nous séparait à ce moment-là, nous avons pensé spontanément à un texte relativement récent. Il est de 1990. C'est un roman de Pierre Michon, Maîtres et serviteurs, où trois peintres sont évoqués, dont deux ont fait l'objet de cette émission, en quelque sorte, c'est-à-dire Goya et Watteau. Et j'aimerais beaucoup que Marie-Hélène Girard complète cette triade et nous présente peut-être ce texte.
Alors, le texte de Pierre Michon assemble trois rêveries biographiques, je dirais, sur des peintres qui visiblement lui importent. Et le regard qu'il porte sur Goya avant que Goya n'émerge véritablement en Espagne, c'est un regard sur le début de la carrière de Goya, Goya ambitieux et Goya qui arrive au Prado et découvre Velázquez et se perd dans Velázquez. Et il n'évoque pas la suite de la carrière de Goya parce que tout le monde la connaît, mais c'est une sorte de genèse imaginaire du talent de Goya qui est extrêmement intéressante. Quant à Watteau...
C'est l'inverse.
C'est l'inverse.
Il évoque la fin, Nogent-sur-Marne, le curé de Nogent-sur-Marne.
Voilà. Et il évoque un Watteau, alors non pas nostalgique, non pas le Watteau de l'amour moderne qu'a évoqué Proust. Il évoque un Watteau beaucoup plus torturé, beaucoup plus noir, un Watteau qui brûle une partie de son œuvre et qui disparaît littéralement terrassé par les quintes de la tuberculose. Un peintre tout entier pétri de la nostalgie et de la mélancolie que Michon voit dans ses tableaux. Et c'est une très belle méditation sur la peinture de Watteau qui rebondit en quelque sorte sur sa vie imaginaire qui est peut-être sa vraie vie.
Quant au troisième peintre, c'est Piero della Francesca, à travers, autant que je me souvienne, un disciple.
Travers l'un de ses disciples.
Merci madame, merci monsieur et à plus tard.
Merci madame.
Merci à vous.
Au revoir.